Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 231e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 5 février et au programme de ce soir du Marvel avec la suite d'Ant-Man, d'Avengers, d'Hawkeye qui revient après un gros retard, mais aussi le début du crossover X-Men Guardian Black Vortex. La partie indé reviendra sur le numéro monumental Spawn 250. Nous parlerons aussi de la nouvelle série Postal Cluster Nameless, le nouveau projet de Grant Morrison. Et enfin, la partie d'essai reviendra sur deux projets Superman, le Superman 38 qui nous annonce beaucoup de choses qui changent et le Superman Earth One volume 3 qui est enfin sorti. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Mr. René Benny.
Bonsoir à tous et à toutes et à tous.
Waouh. Et Bruno.
Oh. Oui, salut à toutes et à tous.
Ah, quelqu'un de normal donc ce soir.
Et c'est ça. Ouais. Il en faut bien.
Je pense que Postal t'a beaucoup marqué, Benny.
Oui, entre autres choses.
On y reviendra tout à l'heure. On va démarrer avec du Marvel pour ce soir, parce que bah ce soir, pas de vanne, hein, j'ai l'impression, pas de petits sketchs hein, comme ces derniers numéros. Quelqu'un a une idée de dernière minute? Non, je crois que finalement, la réplique de Benny était suffisante.
C'est vrai.
C'était un sketch, elle, toute seule. Nous allons démarrer avec la partie
Benny
Marvel.
Est un
oh, ça c'est bien plus de ça. La partie Marvel avec Ant-Man numéro 2, toujours écrit par Nick Spencer et Ramon Rosanas. C'est pas plus mal hein, que les artistes restent les mêmes pour le deuxième épisode.
Après, j'allais dire, quand j'ai un book, ça fait un sketchbook.
Ouais, on aurait pu s'en passer en fait. On aurait vraiment pu s'en passer de celle-ci.
Voilà.
Oh, c'est tellement naze.
Alors que Jordan Boyd est à la colorisation. Voilà, pour ce Ant-Man, c'est tout. Hein. Je crois que Benny a tout dit.
Voilà, exactement, on peut passer à la suite.
J'avais beaucoup d'interrogations concernant cette série, étant donné que le premier numéro était certes très agréable, mais je ne voyais pas où il allait. La fin du premier épisode, Scott Lang, hein, qui
c'est
est
vrai,
le Ant-Man.
Il était tout petit. Je ne pouvais pas le voir.
Oh, putain, c'est bien parti ce soir. C'est très très bien parti ce soir. Je sens que Benny est chaud, comme la braise. Benny a mangé du poisson, ça expliquera peut-être beaucoup de choses.
Ouais, c'est
non,
ça,
il faut
ouais.
le préciser, il faut le préciser. Ouais. Donc à la fin du premier épisode, Scott Lang, qui est le personnage principal de cette version de Ant-Man, partait à Miami s'installer avec son ex-femme et surtout sa fille, puisque celle-ci déménageait dans cette ville. Et on comprenait pas trop où la série pouvait partir, quoi. Ant-Man à Miami, enfin, ça s'arrêtait là, quoi, finalement. Et là, on va enfin avoir une idée de plot, on va avoir une idée de ce vers quoi ça se dirige. Et ce vers quoi ça se dirige, c'est tout simplement Superior Foes of Spider-Man, mais avec Ant-Man. Voilà, c'est vraiment le même ton de série, le même humour, le même côté de personnages complètement dealistes qui servent pas à grand chose en Marvel Universe, avec lesquels on peut s'amuser, faire un peu n'importe quoi.
Il y a l'homme
Ant-Man,
ours.
Oui, voilà, Ant-Man va se retrouver face au Grizzly, qui veut se venger puisque le Grizzly l'avait foutu en prison. Mais en fait, pas vraiment. Le Grizzly a foutu en prison. Ant-Man a foutu en prison le Grizzly. Mais en fait, pas vraiment, puisque c'était pas ce Ant-Man-là. Et justement, Nick Spencer adresse le problème des différents Ant-Man. C'est un petit problème de qui était mort, qui ne l'était pas, qui avait le costume, etc., etc. Pendant ce temps-là, Scott Lang, lui, va essayer d'avoir un prêt pour démarrer une nouvelle société, une société de consultants en sécurité. Chose pour laquelle il avait postulé dans le premier épisode, hein, pour la boîte de Tony Stark. Mais n'avait été obligé de décliner puisqu'il partait se déménager à Miami. Voilà. Et tout un tas de choses en entraînant une autre, il va se retrouver à affronter un robot nazi. Oui. C'est complètement fun, c'est complètement foufou. Et on retrouve vraiment cette ambiance de Superior Foes of Spider-Man, complètement déjanté, avec des personnages qui n'ont pas de visibilité réelle dans le Marvel Universe. Bon, Ant-Man, là, oui, puisqu'il va y avoir le film. Mais clairement, sans film, Ant-Man n'a aucune visibilité. Et non, pas de blague sur le fait qu'il est tout petit. Merci. Donc, moi, j'ai passé un bon moment à la lecture. Aucun de vous ne l'a
si,
lu.
Si, je l'ai lu, je l'ai lu aussi.
Ah, tu l'as lu, pardon, Bruno.
Effectivement, et très bonne lecture, un bon moment, beaucoup d'humour. Je me suis bien marré. Effectivement, les dialogues sont réussis. Il y a pas mal de références un peu à la culture populaire geek aussi. Le personnage de Scott Lang est vraiment bien écrit. Le nouveau personnage qui nous a introduit, ce qui sera peut-être un personnage récurrent dans la série, cette nana qui travaille à la banque, a l'air assez intéressant. Elle a l'air de cacher pas mal de petits secrets.
Ouais, il a l'air d'avoir du passif là.
Il a l'air d'y avoir du passif et je pense que ça peut faire un bon team-up en tout cas entre ces deux personnages. Le plot est complètement débile, mais c'est ça qui est fort, c'est ça qui est drôle. Effectivement, tu dis un robot nazi qui jette de l'or, je crois. Enfin, il dégueule de l'or.
Ouais.
Donc c'est l'or des nazis.
Le Midas Bot.
Ouais, c'est ça. Donc vraiment un truc over the top, mais plutôt amusant. Reste moi un seul souci, c'est que Nick Spencer fait référence un petit peu à la continuité, comme tu l'as dit avec les différents Ant-Man. Mais j'ai un petit souci, c'est vis-à-vis de sa fille. Où pour l'instant, il n'y a eu aucune référence à son rôle en tant que super-héroïne. Elle a quand même été stature pendant longtemps.
Si j'ai bien compris, moi, le truc, c'est qu'elle a complètement abandonné l'idée d'être super-héroïne parce que sa maman l'en empêche.
Voilà, mais là, on a l'impression que sa fille est un peu... qu'elle le réprimande un peu, son père, alors que quand même, elle a, que ce soit dans Young Avengers ou dans d'autres séries dans lesquelles elle a été, comme Initiative et compagnie, elle a quand même été plutôt... plutôt balèze et voilà.
Oui, c'était pas la dernière à faire des conneries. Hein.
Non, c'est ça.
Elle a été plutôt tuée aussi à un moment donné.
Elle a été plutôt ressuscitée par le Docteur Doom. Ouais. Mais du coup, ça m'embête qu'ils l'aient pas évoqué au moins depuis le premier numéro. J'espère qu'ils reviendront un petit peu là-dessus plus tard. Mais sinon, une lecture très agréable. Graphiquement, c'est très très propre.
Ça avait été évoqué notamment dans le résumé du premier, au début.
Ouais,
le fait que sa fille était revenue entre les morts.
Mais voilà, mais pas son expérience de super-héroïne. C'était le fait qu'elle revenait, oui, mais qu'elle avait été une super-héroïne avant, ils en parlent pas pour l'instant. Mais voilà, je trouve que c'est très très propre au niveau des dessins, très net, très très cool. Et donc bonne surprise cette série Ant-Man pour l'instant.
Ah, j'ai envie d'émettre un petit avis négatif quand même. C'est peu ou prou le même plot que le premier.
À peu près, mais
encore une histoire de comment montrer que il y a des faiblesses, et ça va sûrement être le pitch de la série puisque ça va être le principe de la boîte qu'il monte, comment montrer que les systèmes de sécurité ont des faiblesses, quoi. Le mec se retrouve encore à hacker une banque, etc. Enfin,
ouais.
C'est un peu le même truc, quoi.
Mais après, je pense que comme tu le dis, ça va être plus, ça va s'orienter vers la. Je pense que Grizzly, c'est un personnage qu'on va revoir fréquemment dans la série.
Oui.
Sur la couverture du numéro 4, je crois, il y a une parodie de Deux flics à Miami, une couverture de Mark Brooks qui est assez délirante, où il y a Ant-Man et Grizzly. Donc je pense que ça peut faire un team-up assez amusant. Bonne lecture pour moi en tout cas.
Pour moi aussi, ouais, un bon petit bail.
Un bon petit bail aussi.
Pas le méga bail de la semaine, mais un bon petit bail néanmoins. On continue avec toi, Bruno. Tu vas nous parler du 41e épisode de Avengers.
Ouais, la méga grosse claque pour moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur de la semaine. C'est énorme.
Je l'ai lu et je le vois pas le coup de cœur, mais bon. Enfin, oui.
C'est énorme.
Okay.
C'est énorme. Alors, ah ouais, c'est écrit,
ça va se fighter,
c'est écrit par Jonathan Hickman avec des dessins de Mike Deodato Junior.
Explique-nous.
On a une couverture
Explique-nous.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Bonnie, derrière là ?
Non, vas-y.
Bon, alors, on a une couverture qui reprend le Ultimates numéro 1. Donc, on sait qu'on va nous parler de l'univers Ultimate. Et effectivement, on va découvrir que Reed Richards de l'univers Ultimate, a été employé par Nick Fury pour protéger la Terre, en fait. Puisque, ça a beau avoir été un ancien vilain qui finalement a retourné sa veste et redevenu du côté des gentils pendant la crise cataclysme. Ça reste quand même quelqu'un de ultra intelligent qu'il faut mettre à profit pour pouvoir aider l'humanité. Et Reed Richards, de son côté, dans l'univers Ultimate, essaye de trouver un moyen aussi d'éviter les incursions. Et il le fait de façon très efficace, puisque on se rend compte qu'en 6 mois, il a réussi à détruire plus de 70 terres qui faisaient des incursions avec l'univers Ultimate. Donc il y va un peu comme un bourrin, il est presque plus efficace que la cabale. Et donc ce numéro, ça, on va suivre en parallèle ce qui arrive à Reed Richards Ultimate et ce qui arrive à la cabale après la fameuse explosion qu'on a vue dans Avengers d'il y a un ou deux numéros, qui était censée avoir mis fin à la vie de ce pauvre Namor. Et bien, on va découvrir ce qui se passe réellement. Et c'est plutôt bien joué de la part d'Hickman, puisque c'est assez cool ce sur quoi il nous amène. Et voilà, la fameuse incursion qui va opposer la Terre 616 à la Terre Ultimate, les prémices sont dans ce numéro. Et ça va envoyer du pâté. Donc voilà, pâté thrower. Donc c'est très très bonne lecture et ça me fait plaisir parce que Jonathan Hickman, c'était vraiment quand il a travaillé sur Ultimate et qu'il a développé son concept de la grande cité avec un Reed Richards qui avait vécu 900 ans à développer ses technologies et compagnie. C'était vraiment un truc qui lui tenait à cœur. Il était vraiment déçu de quitter le titre parce que voilà, le titre n'avait pas suffisamment de succès. Et là, on a vraiment l'impression qu'il revient dessus pour terminer un peu ce qu'il avait commencé dans son run sur Ultimates et relier ça à son run sur Avengers. Et c'est vraiment très malin. Donc voilà. Donc je kiffe. Je surkiffe.
Alors
Ouais,
Benny, dis-nous
bah
tout.
je l'ai lu aussi. J'ai pas surkiffé. Enfin, je trouvais ça pas mal, mais bon, sans plus quoi. En fait, je suis un peu déçu parce que je pensais justement, enfin, j'ai espéré qu'il nous explique que c'était le Reed Richards version Ultimate qui était derrière tout ça, au fait, qui était derrière même les incursions et que c'était au fait. Il était la base de tout ce qui s'est passé. Tu sais, je pensais qu'ils allaient nous dire que c'est suite à ce que lui a demandé Nick Fury que ça a déconné, qu'il a fait une fausse manip, on va dire, qui a tout fait merder et qui a donné lieu aux incursions. Et j'aurais trouvé ça justement assez grandiose, quoi, qu'au final ça vienne de là. Et bon, au fait, apparemment non, quoi. Donc c'est toujours
Bah,
un petit peu
ce n'est
décevant
pas
quand
lui,
tu...
Rabou Malal. Voilà.
Bah oui, par exemple, tu vois, ça aurait été drôle, quoi, que ce soit lui au final, sous un, que ça veuille dire
Bah,
autre chose et que
on
ce
le saura
soit un pseudo.
vraiment au dernier moment, hein, l'identité de Rabou Malal. Je crois que ce sera pas avant Secret Wars ou voir le dernier numéro d'Avengers, quoi.
Ouais, je pense que
D'accord,
c'est là
mais...
aussi qu'on saura s'il mange du porc ou non.
C'est ça.
Voilà.
Référence à ma blague de la semaine dernière.
Mais en tout cas, non, bon, enfin c'est sympa, mais bon c'est toujours un peu pompeux quoi, c'est toujours un peu pompeux et puis effectivement t'as l'impression à chaque fois qu'il te manque des éléments, qu'il te manque des pièces. Non mais c'est juste que Hickman essaye d'écrire ça un petit peu d'une manière faussement compliquée puisque au fait l'histoire est assez simple hein, toujours. C'est des scénarios en général assez accessibles mais racontés d'une manière qui se veut compliquée. Pour un petit peu brouiller les cartes et te faire croire que voilà, il va te révéler les origines du Big Bang, en gros.
Oh, peut-être pas exagéré non plus, mais non, ce qu'on voit, c'est que Hickman, il bande vraiment pour les Quatre Fantastiques, et il est capable de nous écrire des titres centrés sur Reed Richards dans des titres Avengers et New Avengers. Donc c'est
Non, c'est le Big Band alors.
c'est ça. Et là, il y a vraiment, on va avoir une confrontation qui va venir entre les Reed Richards de la Terre classique et de la Terre Ultimate. Ça va être assez cool, je pense, à suivre.
Bon, en fait,
Récemment.
il va faire un remake de ce qu'il a fait sur Fantastic Four, hein, avec tous les Reed Richards, sauf que là, il y en a deux, quoi.
Ouais, mais ça poursuit ce qu'il avait commencé à faire avant, effectivement. Et sur la couverture de Secret Wars numéro 3 qui a été révélée la semaine dernière, voilà, ça nous tease un peu ce futur affrontement. Et j'attends ça avec impatience.
Donc finalement, quelles sont vos notes pour ce numéro?
Gros bail.
Bah ouais, moi checky. Non, bah petit bail, allez, petit bail, ouais. Ça reste correct.
Tu vas
Numéro
continuer, Benny?
intrigant.
Intrigant, c'est
Oui,
ça.
intrigant quand même.
Tu vas continuer, Benny, en nous parlant d'un titre qui revient pour son avant-dernier numéro et qui prend sacrément son temps à croire que les auteurs n'ont plus rien à foutre de son titre. C'est Hawkeye numéro 21.
Ouais, par Matt Fraction et David Arra. Alors c'est marrant parce que le pitch que je vais en faire, c'est le suivant. C'est Hawkeye qui est dans un immeuble qui aide les habitants à affronter des méchants qui veulent s'emparer de l'immeuble. Alors je sais pas, ça vous rappelle peut-être quelque chose parce que
C'est pas
j'ai
le
l'impression que
résumé du
c'est pas
premier
le pitch
épisode?
du premier et puis aussi
Du deuxième?
de beaucoup d'autres en
Puis du
fait.
troisième?
Ouais, enfin, C'est pas en fait toute cette série qui se résume à un mec qui essaye de défendre un immeuble. Alors bon, je sais plus comment s'appelle ce film où tu sais, faut monter au dernier étage
Le raid.
d'un
The
immeuble.
Raid ou
Voilà,
The
le
Raid,
raid.
comme
The
tu veux.
Raid.
Ouais. Mais bon, bah là il y a un petit côté Home Alone aussi. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus puisque les habitants aident Clint Barton en fait à essayer de repousser l'envahisseur. Donc dans une première partie de cet épisode qui est assez comique finalement. On reste sur un titre assez léger, assez humoristique. Et puis finalement, et après, il y a cette deuxième partie qui est vraiment très 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 prenante et très dramatique. Voilà, il se passe vraiment un truc très très grave. Et du coup, voilà, on a quand même hâte de lire ce dernier numéro qui promet d'envoyer du lourd, quoi. Avec
Peut-être
un Clint
sortira-t-il un jour?
Barton. On nous le promet au printemps. C'est marqué printemps
Ou ce sera le
2015.
dernier numéro, c'est ça le prochain?
Ouais, c'est
Et
ça.
ouais, c'est le dernier, c'est la final bow, la flèche finale qui arrive dans ta gueule.
Ouais, sauf que Bow, c'est un arc, mais...
Oui, c'est oui, non, alors c'est pas est-ce que j'ai bien lu d'ailleurs? Est-ce que j'ai dit peut-être une connerie en même temps? Est-ce que c'est l'arc final? Qu'est-ce qu'ils mettent?
Faut espérer...
Oui, c'est ça, ouais, si, ouais, final bow. Ouais.
Faut espérer que ça sorte avant le Hawkeye numéro 1 de Jeff Lemire, qui est prévu pour mars 2015, quoi.
Non, on se
Ah
sortira
bah
après.
là c'est mal barré hein, parce que bon le printemps chez moi ça commence en avril non?
Oui, mais pas aux États-Unis.
Ah bon bah alors autant pour moi.
La winter season, ça va jusqu'à janvier, février, et le printemps commence plutôt aux alentours de mars.
En tout
Non, mais...
cas voilà bon bah s'il n'y a pas de retard peut-être.
Moi, je trouve ça un petit peu dommage, quoi, que les derniers numéros aient mis autant de temps à sortir. Ça donne vraiment cette impression qu'ils en ont plus rien à foutre.
C'est pas faux.
Que ce soit autant de la part de Marvel que de la part des auteurs, quoi. Alors peut-être sont-ils occupés sur
Ouais,
d'autres projets, hein, notamment Matt
c'est
Fraction,
vraiment
on
une
sait, il est très
série,
occupé, hein, mais...
c'est vraiment une série qu'il faut lire en TPB, quoi, vraiment. Parce que
Ben...
finalement,
Ça donne pas envie de soutenir la série en single, hein, clairement. C'est bien dommage. C'est bien dommage.
Bah, de toute façon, maintenant, il n'y a plus rien à soutenir, quoi. Il n'y a plus qu'un numéro, donc c'est voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était un bon titre, mais un peu torpillé par ces retards conséquents. Et c'est vrai que 21 numéros en plus de 2 ans maintenant, hein, puisque je me rappelle, j'avais chroniqué le premier numéro que j'avais lu, c'était le numéro 5, et je l'avais lu en février 2013. Donc voilà, donc effectivement, oui, ça commence à faire.
Si ma
Ça commence
mémoire est
à faire.
bonne, le dernier est sorti au mois d'octobre ou novembre, un truc comme ça, le précédent.
Peut-être, ouais, ça fait un
Alors
bail, hein,
bon,
ça fait un bail. C'est-à-dire
peut-être même
que
avant, je suis en train d'essayer de vérifier en même temps.
après la création d'Hawkeye, on a eu Superior Foes of Spider-Man, et voilà quoi, Superior Foes of Spider-Man est même terminé, et Hawkeye ne l'est toujours pas. Donc c'est pour dire que voilà, ça traîne, vraiment ça traîne.
Ouais, le dernier était sorti en novembre. Était sorti en novembre ou était tagué novembre sur la cover, je ne sais plus.
Mais en tout cas, bon, très bon numéro, hein, cela dit, très bon numéro. Bon, ça fait
Cependant,
toujours plus.
d'après la sollicitation que je vois quand même, le dernier numéro aurait dû sortir s'il n'y avait eu aucun retard, donc le 22 aurait dû sortir au mois d'octobre l'année dernière.
Ouais, non, vraiment dommage à récupérer en TPB, de préférence en TPB VO, puisque la traduction française était quand même pas terrible, terrible. Ne
Donc
faisait pas
effectivement,
honneur à cette série.
je viens de vérifier, c'était novembre cover, hein, donc c'est-à-dire qu'il est sorti en septembre, le numéro 20. Voilà. Pardon.
Ça
C'est...
commence à faire un petit
Ouais,
peu.
ça commence à faire, quoi.
Et le 22 est
Allez.
prévu pour le 11 mars 2015.
Et le Hawkeye, le
Pas
Jeff Lemire?
mi-mars, je crois que ça doit être la semaine d'après. Donc voilà.
Ouais.
Alors, ils vont sortir le même jour, hein, si ça tombe. Ils ont déjà fait le coup.
Ouais.
Oui.
Allez, on passe à la suite. La suite, c'est le Hulk numéro 11, suite de l'arc Omega Hulk, par Gary Duggan et Mark Bagley au dessin, avec Andrew Hennessy à l'ancrage. Hulk, ce fameux Doc Green, est toujours en train de vouloir annihiler les différents personnes qui ont des pouvoirs gamma. Cette fois-ci, il s'attaque à Lyra ou Lyja, je ne sais jamais comment le prononcer. Non, je crois que c'est Lyra. Ouais, c'est Lyra avec un R. Bref, qui est censée être une fille de Hulk d'un univers alternatif.
C'est ça.
Mais Mais là où depuis le départ on voit cet affrontement entre les différents Hulk, là d'un seul coup le scénario change complètement et on part sur une toute nouvelle intrigue qui était légèrement sous-jacente, mais voilà, Doc Green se retrouve confronté à un problème majeur qui échappe totalement à son contrôle et qui n'a rien à voir avec les différentes personnes au pouvoir gamma. Et je l'ai pas vu venir et j'ai trouvé ça vachement bien. Tu l'as lu aussi, Benny, ou pas?
Non, je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu.
Mais laisse-moi deviner, il bande.
Non.
D'accord.
Ça aurait pu
être un gros problème quand même pour lui.
Ça aurait pu, mais non, vraiment, les choses échappent totalement à son contrôle. Il se retrouve vraiment emmerdé et c'est vraiment, non c'est
parce
vraiment
que
bien.
J'imagine ça.
Oui, t'imagines du caca de Hulk, voilà.
Non, j'imagine une grosse protubérance dans son pantalon et voilà, il est bien embêté.
Vraiment, super retournement de situation, vraiment, qui relance bien la série parce que le concept d'aller frapper les Hulk, enfin les différentes versions de Hulk, ça commençait à s'essouffler
un
peu.
C'est pour ça que je l'ai pas lu cette fois-ci, c'est parce que je me suis dit, ouais, non, puis non, quoi.
Mais justement, là, au moment où ça s'essouffle, tu commences à dire, bon, bah, qu'il reste qui maintenant? Il reste She-Hulk, on le sait.
Ouais.
Et puis voilà, et bah, justement, ça part sur complètement autre chose, et ça, c'est vraiment bien. Cependant, j'ai du mal, je pense pas que cette série continuera au-delà de Secret Wars. Je pense que le Omega Hulk sera le dernier arc de cette série et cette série s'arrêtera. Et c'est bien dommage. En tout cas, moi, c'est toujours un bail, surtout pour ce gros tournement de situation qui est très appréciable et qui relance complètement la série.
Non, ça va devenir le porte-étendard de tout l'univers Marvel, en fait.
Surtout quand on voit la cover du prochain numéro, on se dit que vraiment la série a complètement changé de ton et on se retrouve dans une situation totalement inverse. Enfin, plutôt intéressant, il me tarde de lire ce 12. Donc, bye hein, pour ce Hulk numéro 11.
Ah, mais c'est pas en rapport avec ce Hulk qu'on voyait, là.
À toi de voir. À toi d'aller lire l'épisode pour savoir.
Comment il s'appelle, là, le maestro?
Mais je ne dirai rien.
On nous l'a teasé il y a quelques numéros, et puis c'est vrai que pour le moment, il avait rien fait.
En tout cas, maintenant, il a la beubare. Hein. Donc, ouais. C'est vraiment, il se prend pour le maestro, quoi. Il veut bien venir.
Ok.
Bref, passons à toi, Bruno. Je ne voudrais pas trop en révéler sur ce Hulk numéro 11 pour que les gens puissent être surpris eux-mêmes. On passe à toi, donc, qui va nous parler d'un one-shot qui lance ce nouveau crossover entre les Gardiens et les X-Men.
Oui, ça s'appelle The Black Vortex.
Le petit troll.
The Black Vortex.
Troll donc, avec des poils aux pattes.
Alpha. Donc, c'est écrit par Brian Michael Bendis. Non, pardon. Tu vois, je me suis trompé. J'ai failli dire Bendis. Non, c'est écrit par Sam Humphries avec McGuinness au dessin.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'avait pas bu que de l'eau.
Oui, il a bu de la Guinness aussi.
Et Sam Humphries le ridicule. Ah, non, pas.
Il y a Chris
Black
Anka.
Vortex, hein, tu nous as tendu la perche, Bruno.
Ouais, il y a Chris Anka aussi qui intervient et qui apporte les Ankas.
Parce qu'il avait faim, ouais, c'est ça.
Avec la pièce, ouais.
Tu m'as eu.
Donc ça commence, on est 12 millions d'années dans le passé, et on découvre sur une planète qui s'appelle la planète Viscardi. Un groupe d'aliens inconnus qui essayent de se développer et qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont complètement opprimés par un céleste qui est implanté dans leur ville qui les empêche de pouvoir conquérir l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils essayent de lancer une navette spatiale, le céleste la défonce. Et donc on a un personnage qui se rebelle et qui commence à gueuler sur la tête du céleste et à dire « Pourquoi vous nous empêchez de nous développer ?»«
De conquérir l'univers !»
Voilà, de conquérir l'univers et compagnie. Et tout d'un coup, le céleste se met à bouger et fait apparaître le miroir magique de Blanche-Neige et les Sept Nains devant cette alien qui, en regardant dans ce miroir, est capable de voir son potentiel caché et ce qu'elle pourrait devenir plus tard, et voilà, sa force intérieure. Après, on se retrouve à notre époque, où on a Star-Lord, qui justement a récupéré ce fameux miroir. Qu'il a volé à Mr. Knife, qui est donc son père. Et donc il est bien embêté parce qu'il ne sait pas quoi faire de cet artefact magique qui est très très puissant et qu'il n'aimerait pas qu'il tombe dans de mauvaises mains. Et donc comme il est en équipe actuellement avec Kitty Pryde, du coup ils vont recruter les All New X-Men pour venir leur donner un coup de main et décider de ce qu'ils vont pouvoir faire de de ce miroir. Donc il y a Storm qui débarque avec Beast et les X-Men du passé. Il retrouve également tous les Gardiens de la Galaxie qui sont aussi présents. Il y a deux trois petites scènes rigolotes avec les Gardiens de la Galaxie puisque on a droit en fait à leur soirée jeu, c'est-à-dire qu'ils ont une soirée dans la semaine où ils font du jeu de rôle sur plateau et avec un maître du jeu qui est Rocket Raccoon. Ça donne droit à des petites scènes assez amusantes.
Putain, ça doit être ça doit être vraiment du gros bourrin, je pense.
Voilà. Mais bah après, en fait, c'est de la discussion sur qu'est-ce qu'on va faire de ce fameux miroir. Il va y avoir un petit twist pour une grosse bagarre qui va s'enclencher avec l'intervention de vilains. Et tout ça, ça va nous amener sur ce fameux événement Black Vortex où chacun des personnages va sans doute développer petit à petit ses pouvoirs cachés. C'est franchement moyen. C'est pas une purge.
Si c'est moyen pour toi, ça doit être très nul au fait. Pour le commun
des mortels. Pas exagéré. C'est pas une purge, mais c'est juste que c'est vraiment pas très original, je trouve. Et du coup, rassembler à nouveau les gardiens et les All New X-Men, c'est assez artificiel, je trouve.
Ils ont qu'à le foutre dans le cristal Macrane, hein.
Ça, les dessins sont sympas, du Ed McGuinness pas trop mal. Il y a deux trois splash pages qui sont sympathiques, des splash pages d'action et de bagarre. Mais sinon, pas renversant, ça m'a pas hyper excité pour l'event quoi. Donc voilà, je dirais un check it.
Ça m'a l'air bien prometteur tout ça. Bien prometteur de conneries évidemment. On reste avec toi Bruno, pardon. Tu vas continuer avec la série hebdo de Marvel, The Wolverines numéro 5.
Oui, écrite par Charles Soule avec au dessin cette semaine Jonathan Marks. Donc graphiquement c'est beaucoup mieux que le précédent numéro, même si ça reste quand même assez spécial puisque c'est très peinture un peu cette fois. Donc il y a des planches qui sont très belles et d'autres un petit peu ratées. Là, c'est l'attaque de la base de Mister Sinister, et tout va partir en couille hein, pour notre fameuse équipe de personnages un peu wolvériniens. Ils vont se retrouver séparés, et ils vont être pris au piège par Sinister, qui va les obliger à affronter les créatures génétiquement modifiées qu'il a fabriquées dans son antre caché, ce qui sera l'occasion de découvrir un Fing Fang Foom modifié qui a un tore à la place de sa langue, donc c'est assez bizarre, et de rencontrer, de voir le retour de Ben Reilly, Scarlet Spider, qui en fait n'avait pas disparu, il est dans la série Wolverines, donc il va affronter la fameuse équipe qui essaye de cambrioler Sinister et récupérer le cadavre de Wolverine. Donc, bon, les dialogues sont bons, il y a pas mal d'humour, il y a pas mal d'action. Graphiquement,
attends,
ça passe.
Juste un truc là, le Ben Reilly donc qu'on a vu dans Spider-Verse, qui est pas mort et donc qui est dans Wolverine.
Non, c'est un autre Ben Reilly.
Non, c'est le c'est Kane qui se fait appeler Ben Reilly maintenant.
Non, là c'est vraiment encore autre chose quoi.
Ah
c'est vraiment Sinister qui est le roi des expériences génétiques.
Puis il y avait vraiment un Ben Reilly dans Spider-Verse qui s'est fait tuer quoi.
Donc là c'en est d'autres. Et vous verrez ça en feuilletant le comics. Le côté feuilletonnant du titre marche bien pour l'instant. J'ai toujours envie de suivre cette histoire. Par contre c'est quand même assez inégal au niveau des dessins. Et voilà. Donc pas mal, sans plus. Un check it.
On continue avec toi, Benny, qui nous parle du deuxième épisode de Star Wars.
Oui, Star Wars, donc numéro 2, avec Jason Aaron au scénario et John Cassaday au dessin. Le premier épisode se terminait sur ce cliff de la mort. On se demandait bien ce qui allait se passer. Est-ce que Luke Skywalker allait s'en sortir? Évidemment, hein, puisque de toute façon, c'est un peu le problème de cette série quand même. Je me demande comment ça va durer très longtemps, vu que je le rappelle, donc ça se situe entre le Star Wars épisode 4 et épisode 5, quoi, au fait. Donc Luke Skywalker faisait tout simplement face à Darth Vader, y a la confrontation est du plus bel effet, hein, certes, ça... Quand on lit ce comic, on a même les voix en tête, hein, des persos, qui sont toujours très bien représentés d'ailleurs par John Cassaday, problème de John Cassaday, de toute façon, c'est pas les persos, c'est vraiment les plus les décors. Alors là, bon, encore ça va, encore un petit peu, hein, puisque il est surtout en intérieur en fait dans cet épisode. Donc, il arrive à nous sortir des pages quand même assez correctes. Point de vue scénario, voilà, c'est l'évasion de Luke Skywalker, Han Solo et puis Han Solo. Han Solo, bah oui, tout simplement. Han Solo et la princesse Leia, donc lui viennent en aide.
Han Solo.
C'est parce qu'il a un très gros réseau.
Han Solo, tu sais, c'est c'est, je crois que c'est plutôt un âne, tu sais, comme
un liboron l'âne, quoi.
Ouais. Quelle tête de mule, c'est Han Solo. Oh putain, j'y arrive pas. Ils lui viennent en aide et puis voilà, bah ils arrivent à s'échapper tout simplement. Bon, c'est vraiment vraiment de la grosse scène d'action pour fanboys de Star Wars et puis pour les fans même un petit peu plus occasionnels. Voilà, c'est sympa, mais ça ne révolutionne pas l'univers de Star Wars et moi j'attends un peu plus de voir ce que ça va donner les autres séries parce que là pour le moment c'est très très classique on va dire, voilà,
ça avance pas hyper vite, après c'est très très fan service comme série. J'ai quand même pris pas mal de plaisir à la lecture parce que je trouve que les dialogues de Jason Aaron sont vraiment criants de réalisme par rapport au film, c'est qu'on a comme tu dis on entend les voix des acteurs. Et on retrouve vraiment leur caractère, leur façon de s'exprimer. Et c'est l'occasion aussi pour les fanboys d'avoir un peu l'interprétation de Jason Aaron de certains événements qu'on ne connaissait pas dans les films. Par exemple, là, on a droit à peut-être la première fois où Vador se rend compte que Luke est peut-être lié à lui de par voilà son histoire. Et c'est fait de façon assez intéressante. Après la scène d'action avec la TAT est assez réussie. Il y a les scènes avec C3PO que je trouve un petit peu moyennes, mais bon, on verra ce que ça donnera. Il y a toujours ce comic relief avec C3PO. Ils essayent de reprendre un petit peu ce qui s'est fait aussi dans les films.
Mais ils se retrouvent toujours en morceaux, quoi, voilà. Embarqués par des extraterrestres.
Mais ça reste quand même une bonne série Star Wars. Même par rapport à ce qui a été fait avant, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et donc voilà, Cassaday, et comme tu l'as dit, c'est pas moche. Hein. Franchement, c'est mieux que ce qu'il avait fait sur Uncanny Avengers il y a quelques temps. Les visages sont réussis, les scènes d'action sont réussies. Voilà, effectivement, il y a pas énormément. Les décors, c'est souvent des fonds, des aplats de couleurs, mais par contre, le reste est quand même très bien détaillé. Donc, une bonne série, un bon bail.
Ouais. On termine. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas laissé
c'était moi à la base qui faisais la review et puis c'est ce connard qui est
là. tout de suite, les gros mots.
Je ne te permets pas.
On ne sait pas se défendre sans utiliser des gros mots.
C'est vrai. Mais toi, tu sais pas te défendre sans utiliser tes points. Mais bref, non, bah c'est un bail, hein. Tout ça pour dire que c'est un bail en plus. Voilà.
Terminons avec toi, Bruno. Tu avais envie de nous parler d'une petite sortie digitale, Avengers, Age of Ultron, Infinite Comics.
Oui, tout à fait. Un comics digital que vous ferez trouver sur Comixology au prix de 3$, et qui va faire prologue au film Age of Ultron. Et ça va se passer à la fois un petit peu avant, pendant le film Captain America Winter Soldier, et en fait, ce prologue se termine avec la scène post-générique de Winter Soldier. Donc c'est le but de ce comic, c'est nous expliquer un peu d'où viennent Quicksilver et Scarlet Witch dans l'univers du Marvel cinématographique. Et voilà. Donc
de là-bas, je crois, non ?
Hein ?
De là-bas, non ?
De là-bas.
Ils viennent de là-bas, non ?
Ils viennent d'un pays éloigné, un pays de l'Est.
Et, de New York.
Et j'avoue avoir été un peu sceptique sur cette introduction de Scarlet Witch et de Quicksilver, comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Dans le comics, ça arrive vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai presque envie de dévoiler vraiment qui ils sont et comment ils se sont transformés, mais je trouve ça un peu bizarre et pas vraiment dans le ton de ce qu'on a pu voir dans les films. Je trouve ça limite un peu trop série B, quoi. Bon, À voir comment ça va être établi dans les films. Bon, ça m'a pas laissé un grand souvenir, hein, j'avoue, ce prologue. Au niveau du scénario, c'était écrit par Will Corona Pilgrim avec au dessin Wellington Alves sur des storyboards de Geoffrey Mast. Voilà, partie graphique. Le côté turbo-média est pas mal fait. Voilà, avec l'enchaînement des cases, c'est plutôt malin. Par contre, les dessins, j'ai trouvé que c'était pas toujours très très top, quoi. Donc vraiment anecdotique pour moi, ça fait un peu cher aussi, je trouve, pour.
Tu nous as montré une image où on était censé voir Chauffour et Mast.
Oui, alors voilà, il y a Geoffrey Mast qui interviennent dans une scène, ils ont été dessinés, voilà, un petit clin
Il parle
d'œil.
pas français.
Ils parlent le Sokovien, donc
Ouais.
voilà, donc
Donc on leur demandera nous, de s'adresser à nous en Sokovien maintenant.
en Sokovien, ouais, tout à fait. Donc voilà, pour moi c'est un tout petit check-it, vraiment, et je trouvais que c'était un peu cher.
Ça leur fera plaisir.
Les TP sortis chez Marvel cette semaine, on a de l'Omnibus avec le Fantastic Four by Matt Fraction Omnibus au prix de 100$ et qui va reprendre toute la période de Matt Fraction sur les Fantastic Four, mais vraiment au complet avec notamment la série Fantastic Four, les 16 épisodes, ainsi que le spécial numéro 5 AU, mais aussi la série FF avec Michael Red
Ah oui,
au
donc ça fait
dessin.
beaucoup quoi.
Oui, voilà. Et du matériel du Marvel Now Point One. Donc la série FF complète, hein, du 1 au 16 également. Voilà, deux séries à lire en parallèle.
Ouais, qui n'ont pas laissé un grand souvenir. Hein.
Ça vaut surtout pour FF, je trouve.
Oui.
Oui, surtout, surtout. Tout à fait.
Et sinon, est-ce qu'ils ont mis les points Ultron, là, je sais pas quoi, là?
Oui. Bah, celui le 5 AU
Ouais.
de Fantastic Four, ouais.
Ouais, d'accord, bah, ils sont vraiment complets, hein.
On continue avec le Marvel Masterworks Amazing Spider-Man Hardcover Volume 1 qui ressort parce qu'il était out of print avec le Amazing Fantasy 15 et le Amazing Spider-Man 1 à 10. C'est du hardcover, ça vaut $50. C'est cher, mais c'est l'édition luxueuse, évidemment. Par contre, chose qui est moins chère et qui est très très rare, c'est aussi sorti en digital, hein, cette semaine sur le Marvel Unlimited. C'est le Spider-Man 2099 classique, volume 3, avec le crossover Fall of the Hammer, notamment Fall of Hammer, pardon. C'est au prix de $35. Ça contient les Spider-Man 2099 15 à 22, le Ravage 2099 15, X-Men 2099 5, Doom 2099 14 et Punisher 2099 13, faisant tous partie du crossover Fall of Hammer. Voilà.
Putain,
C'était pas disponible.
Ravage, quoi. C'était quand même bien pourri, ça.
Allez, série de Stan Lee.
Ouais. Pas
Qui
top.
avait commencé avec un gros concept écolo, puis qui s'était barré sur autre chose, alors qu'on n'a pas eu du tout la fin en France. Il y a dû avoir une dizaine d'épisodes de publiés, je crois, à peu près 10-12 épisodes de publiés en France, et puis la série est quand même tenue jusqu'au numéro 30 passé. Hein.
Et
Donc,
Spider-Man 2099, période Peter David, ça a duré combien de temps?
Bah,
Pas
la
tout.
série s'est arrêtée au 46, il a dû en écrire 44, je crois.
D'accord, ok.
Ah, il a pas fait, il les a pas tous faits.
Non, non, les deux derniers, il ne les a pas fait.
C'était
Justement,
qui? C'était qui?
je ne sais plus qui
C'était
écrivait.
pas Rick Leonardi qui faisait scénario et dessin, du coup, à la
Non,
fin?
non, non, non,
Non.
je ne sais plus exactement qui, je suis en train d'essayer de retrouver l'info, qui écrivait les deux derniers, mais justement, on lui avait pas laissé faire la fin, et bah, la série s'est aussitôt cassée la gueule, et voilà, passons à autre chose, quoi. Ça a été vraiment, ils ont annulé la série juste après. Ah, j'ai le nom, Terry Cavanagh et Ben Rabe.
Ah oui, oh putain, Terry Cavanagh. Oui, en effet. Oui.
Voilà.
Ouais. Ah
Et
bah ça,
ça
Terry
n'a pas
Cavanagh dans les années
fonctionné du tout.
90, c'était. Je pense qu'on pouvait pas trouver pire client, hein. C'était ouf.
Et
Celui qui faisait des ninjas cyborgs à tout bout de champ.
il voulait pas accepter ce que Peter David avait écrit et finalement ils ont mis quelqu'un d'autre et puis ça s'est arrêté aussi sec. Bref. On termine avec un autre omnibus qui est sorti cette semaine. Il s'agit du Uncanny Avengers Omnibus. Ça vaut $100 et ça reprend la complète de Uncanny Avengers, donc les 25 épisodes, plus le numéro 8 AU et l'annual numéro 1, l'ensemble étant écrit par Rick Remender. Là, on conseille, là, par contre.
Oui, on conseille. Après, dans ce format, je sais pas, parce que ça fait quand même assez cher. Pour l'équivalent de 5 TP. Ouais, si, voilà, il y a le côté luxueux, quoi, de l'objet, mais.
Ouais, c'est du hardcover, voilà, il y a tout dedans, bon. Si vous le voulez, tout en un seul et même bouquin. On passe à notre partie indé et on va démarrer avec un épisode événement puisqu'il s'agit du numéro 250 de Spawn. Spawn a atteint son 250e épisode. difficile à croire, hein, quand même.
Ouais, difficile à croire et ouais, bah c'est, enfin, en plus, je pense qu'il y a eu quand même quelques mois de retard.
Oui, bah ça fait 22 ans que ça dure.
Ouais.
22 ans. Moi, je me rappelle des débuts, surtout en français, puisque à l'époque où ça a été publié par Semic.
Bah,
Donc, c'est vrai que.
c'était la mode, quoi. Tout le monde lisait Spawn, même les fans, même les gens qui n'étaient pas fans de comics lisaient Spawn. C'était la BD qui circulait un peu partout.
Et du coup, bah voilà, le fait d'avoir connu un peu les débuts, finalement, même si c'était les débuts français avec quelques années de retard, et puis on arrivait au 250, qui n'est pas la fin, rappelons-le, hein, ce n'est pas la fin, c'est même, on va dire, un recommencement en quelque sorte. Ben ouais, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien. Le scénario est de Todd McFarlane, les dessins sont de Simon Kudransky, sauf une page qui est de John Boy. Voilà. C'est précisé, c'est la page 59 exactement, gros gros numéro, hein, qui vaut 6
Graphiquement,
dollars.
c'est pas mal, hein,
Ah,
graphiquement.
oui, c'est du Kudransky, hein, c'est très très sympa.
Mais par contre, on sent que c'est McFarlane, hein, au scénario, hein. Putain, c'est lourd, quoi.
Ben c'est oui, alors c'est excessivement verbeux, très très long à lire, ça prend énormément de temps à lire, ce qui fait qu'il y a une des lectures que j'ai pas pu finir pour cette semaine, on en reparlera tout à l'heure. C'est l'Apocalypse. Voilà, on va le préciser comme ça, tout un tas de cafards, de chauves-souris, de serpents, de mygales, d'araignées, il y a toutes les saloperies comme ça,
Enfin, sur New York, quoi.
qui sont libres dans New York et qui pourrissent la ville, pendant que le spawn actuel, qui s'appelle Jim Downing, hein, si ma mémoire est
Ouais,
bonne,
c'est ça.
lutte contre son costume. Simplement, lutte contre son symbiote. Ça me gêne de dire son symbiote parce que ça fait très Venom, mais
Bah
malheureusement, c'est
là
quand
en
même ça.
plus, clairement, on le voit te représenter vraiment comme Venom.
Alors, c'est franchement, il y a ce sentiment côté épique, grosse destruction, apocalypse totale, etc. Cependant, si comme moi, vous n'avez pas suivi Spawn depuis des années et des années, bah, on est quand même un peu perdu. On retrouve certains éléments, on retrouve bien sûr Simon Twitch, on voit des choses passer, mais. Malgré tout, je me suis senti un peu perdu. C'est normal, c'était pas censé être un jumping point. Le jumping point, c'est le mois prochain. T'en as pensé quoi, toi, Benny?
Bah moi j'avais lu quelques épisodes avec ce spawn de remplacement. Grosso modo, McFarlane nous refaisait
Qui est là comme depuis le 185, hein.
Ouais, mais McFarlane nous refaisait avec lui, grosso modo, tout ce qu'il avait fait avec Al Simmons. Voilà, c'était vraiment un remake des aventures d'Al Simmons. On retrouvait Malebolgia, on retrouvait le clown, on retrouvait le même genre d'intrigue avec les anges à la Angela, donc c'était plus Angela, c'était d'autres anges du coup, pour des questions de droit. Mais enfin bref, ça, j'avais l'impression de relire vraiment les mêmes histoires, donc du coup j'avais lâché cette lecture.
Cependant, on voit qu'il y a un twist avec les pouvoirs, hein, ça nous est quand même pas mal expliqué là.
Ouais, bah là il revient à la base, hein, j'ai l'impression, avec cette histoire et cette enquête donc de Sam et Twitch qui se rendent compte qu'il y a des différents symboles qui apparaissent un peu partout. En fait, c'est surtout ça, hein, pendant tout cet épisode, ils sont là à essayer de déchiffrer un petit peu ces symboles, à savoir ce que ça veut dire. Et bah on se doute bien que ça annonce le retour de quelque chose. Puis
Oui,
bon,
enfin.
enfin voilà, ça on s'y attend, quoi.
Enfin, on va, ça est difficile de pas parler de la fin, malheureusement.
Ah, de toute
Enfin,
façon, on se doute bien, hein,
oui,
comment ça pourrait se terminer.
le retour d'Al Simmons. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est cette fin presque trop abrupte pour le personnage de Jim Downing. Espérons qu'il y aura autre chose, parce que si sa fin s'arrête, c'est comme ça.
Ouais.
Putain, c'est abrupt, quoi. Et puis, il y a l'air d'avoir encore des intrigues en suspens avec ces personnages secondaires que j'ai découverts là, certes, mais on sent qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été résolues.
Ce qui faisait marrer, c'était de retrouver les trois journalistes là.
Bien
Dont
sûr.
le.
Le mec qui gueule, ouais,
Le.
l'éditorialiste engagé, ouais.
Ouais.
On va l'appeler comme ça.
Voilà, qui est toujours là, à gueuler et tout. Enfin, ça m'a ramené quasiment 20 ans en arrière quand je lisais les spawns, quoi. C'était déjà ça, quoi. C'était drôle. Mais voilà, mais ouais, enfin. Numéro sympa,
Un
mais
numéro épique, moi je trouve, enfin, en termes de cataclysme, c'est vraiment épique, quoi. Ça remplit bien sa fonction de 250e, quoi, un truc qui pète de partout. Un
ouais, mais
final.
j'ai quand même des réserves par rapport à McFarlane, quoi. C'est surtout ça, quoi. c'est vraiment très très verbeux et très laborieux, je dirais, dans l'écriture. C'est vraiment laborieux et ça a toujours été le problème de Spawn, c'est-à-dire que finalement, ce qu'il raconte là, ce qu'il a raconté en 250 exemplaires, quand on lit ce numéro, on se dit qu'il aurait pu le raconter en une centaine d'exemplaires, quoi. C'est très très long. C'est très très long. Franchement, heureusement qu'il passe la main à quelqu'un d'autre, donc à savoir Paul Jenkins, au final. Mais bon, j'espère que Paul Jenkins n'aura pas trop les mains liées et que McFarlane ne sera pas trop derrière à lui dire ce qu'il faut faire, parce que ce serait bien que Spawn respire un peu plus. Et voilà, quoi, que McFarlane lâche un peu le lest, quoi.
Donc le mois prochain, Spawn Resurrection, qui est un one-shot, écrit par Paul Jenkins, hein, comme tu le précisais. Et puis, le mois suivant, on reviendra à la numérotation, au numéro 251. Qu'as-tu pensé du nouveau design du costume que l'on voit sur la dernière page?
Moi, j'ai bien aimé. Enfin, ça m'a pas trop dérangé, ça, le design.
Ouais. Plutôt classe. À voir, parce qu'il y a quand même tellement de détails que j'ai peur que au case par case, on en oublie.
Ouais, mais enfin c'est quand même mieux que le spawn
du film, oui.
Là qui est bon, bah le spawn qu'on a eu ces dernières années, quoi, qui était un peu pauvre, quoi, finalement.
Il
faisait penser à Haunt,
en
fait, hein.
Oui.
Il faisait penser à Haunt avec des ailes. Maintenant, enfin dernièrement, il avait des ailes, mais bon.
Donc finalement, pour ce numéro 250, moi je vais donner un check-it, un bail vraiment si vous êtes un gros fan de Spawn, hein, évidemment.
Ouais, plutôt.
Et un check-it pour les vieux qui reviennent un peu comme nous. Moi en tout cas, ça m'a donné envie d'aller voir la suite. Ça m'a donné envie d'en lire et puis peut-être de rattraper un peu mon retard, enfin en tout cas essayer de comprendre un peu qui était ce personnage. Donc j'ai envie de dire que finalement l'effet est plutôt réussi, je pense.
Pour l'occasion, il y a eu 6 couvertures variantes pour le numéro.
10 même.
Et il y en a 6 qui étaient accessibles à tout le monde, et 10 peut-être avec les incentives.
Avec les incentives, ouais.
Mais il y avait du Sean Murphy, du Scotty Young, il y avait du Greg Capullo, donc il y avait vraiment de très très belles couvertures pour l'occasion.
Ouais. Elles sont toutes dedans, hein, elles sont toutes dedans.
Bah, dans la version digitale. Ouais.
Mais en tout cas, ouais, bah, ça fait le job. Moi, je vais dire un bon check-it, voilà. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir un petit peu Spawn revenir sur le devant de la scène, même si
Tu émets des réserves.
J'ai émis des réserves, voilà. Je sais pas si ça va fonctionner longtemps, honnêtement.
On va voir ce que fera Paul Jenkins le mois prochain.
Ouais.
On passe à ce qui est ton coup de cœur de la semaine, Benny.
Oui,
Il s'agit d'une nouvelle série chez Topco.
Chez Topco et chez Image, au fait, en même temps.
Normal, Topco est un sous-label d'Image.
Voilà. Ouais. Mais Topco, ouais, principalement. Matt Hawkins est au scénario. Matt Hawkins et Brian Hill sont tous les deux au scénario, d'ailleurs. Qui est au dessin? Isaac Goodhart, voilà, est au dessin. Donc c'est mon coup de cœur, effectivement. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc postal? Alors on suit principalement, en fait, les aventures d'un postier qui est atteint du syndrome d'Asperger. Asperger, je sais pas comment
on dit. Asperger. En français, on dit aussi Asperger.
Voilà. Donc, qui est, on va dire, un petit peu maniaque. Qui a des tocs. Par exemple, quand on lui sert une assiette avec un hamburger et des frites, il faut absolument pas que les frites touchent le hamburger. Sinon, ça va pas. Dit comme ça prête à sourire, mais
voyez un peu Monk, voilà, c'est un peu le même genre, quoi.
C'est ça, mais c'est un personnage très très intéressant à lire très très bien écrit, là, d'ailleurs, hein, je trouve.
C'est ça, c'est pas dans le côté apitoiement ou dans le côté moquerie.
Ah non, du tout.
Vraiment, c'est un point de vue totalement neutre, finalement, ça m'a épaté.
Ouais, non, mais le personnage est bien écrit et attachant, intrigant. On a envie vraiment de le suivre, quoi. En fait,
disons qu'en plus, ces bulles de pensée, c'est vraiment comme s'il était sain d'esprit. Il nous explique sa condition, il nous explique ce qui lui passe par la tête, et contrairement à quand il s'exprime avec les autres personnes, c'est beaucoup plus clair dans ses bulles de pensée. Et ça, c'est bien fait, et ça nous permet de nous attacher pas mal à ce personnage.
Ouais. Et alors bon, du coup, qu'est-ce qui fait ce personnage? Eh ben, il est dans une ville qui s'appelle Eden, et c'est une ville un peu particulière. On va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire.
Oh, quelle ville!
Oui, quelle ville de dingue, j'ai envie de dire, une ville où on a tous envie d'aller vivre et de couler des jours heureux. Alors en fait, on commence par une scène un peu particulière, une espèce d'exécution dans une église. On sait pas trop ce qui se passe. On a l'impression que tous les villageois exécutent au fait quelqu'un, que le prêtre va lui tirer une balle en pleine tête. Et on remonte 24 heures avant, on fait la connaissance donc du personnage principal dont on vient de parler. Et bah au fait, on voit un petit peu le quotidien de cette ville avec différents protagonistes qui sont des protagonistes importants puisqu'on fait la connaissance de la mère du héros et puis qui est aussi maire donc de cette ville. On fait connaissance avec le shérif, avec le prêtre, etc. Ainsi que d'autres personnages, par exemple la fille dont aimerait avec laquelle aimerait sortir le personnage principal. C'était d'ailleurs j'ai bien aimé leur relation, comment mise en scène dans ce premier épisode. Et bon bah on se rend compte que effectivement il règne une ambiance assez particulière dans cette ville. Et que les gens ont une drôle de manière de régler au fait les problèmes. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle il y a pas de meurtre, il y a pas de criminalité, et pourtant on va voir que tout n'est pas aussi rose que ça, quoi. En fait, je peux pas vraiment rentrer dans les détails sans spoiler au fait le principe.
Il faut pas trop en dire. Ouais.
Ouais, voilà. De cette série. Reste que ça, on peut le dire quand même, puisque c'était même dans le pitch, dans la
sollicitation.
Dans la sollicitation, voilà, exactement. Va y avoir un meurtre. Un meurtre, visiblement, le héros va essayer de savoir qui l'a commis. Mais c'est pas forcément ce qu'on voit dans les premières pages, ce meurtre. C'est peut-être
pas du tout.
Effectivement autre chose. Oui,
du tout. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce premier épisode.
Je voulais pas le dire parce que.
Ce que je veux dire, quand tu dis, c'est peut-être pas ce qu'on voit dans les premières pages. En effet, c'est autre chose. Parce que ce que l'on voit dans les premières pages, c'est simplement de l'exposition pour qu'on comprenne quelle est cette ville et quelle est la particularité de cette ville.
Ouais.
Et franchement, il a réussi à mélanger deux concepts complètement tarés. C'est-à-dire le concept de cette ville particulière dont on ne va pas révéler les tenants, les aboutissants, et puis le personnage principal qui a un syndrome d'Asperger,
ouais.
Tout en n'étant ni larmoyant ni à se foutre de la gueule du personnage principal, enfin en étant un personnage principal haut et fort, et vraiment c'est excellent.
Ouais.
C'est vraiment une ambiance très très pesante. C'est un peu du polar, enfin c'est un thriller, enfin je sais pas, c'est voilà, on a l'impression d'être dans un
ouais.
roman noir. C'est voilà, c'est très très particulier.
Moi, ça
on n'est
fait...
pas du tout dans l'humour. Enfin, quoique, il y a quand même des touches humoristiques, un petit peu d'humour noir, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment très très intrigant et c'est très prenant. Le seul reproche que je ferais à ce titre, c'est vraiment graphique. Enfin, c'est pas vraiment graphique, je veux dire, mais c'est le graph. Enfin, les dessins sont pas tip top, quoi. Ça dépend
des
pages.
Pas sensationnel.
Ouais, franchement, ça fait un peu, comme sur certains épisodes de Crost, quoi. C'est on met pas les dessinateurs les plus connus sur ce titre visiblement, mais
Bruno,
pas tout à voir.
Ton avis?
Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça vraiment très plaisant. Il y a deux bons twists effectivement dans ce comics. Ça m'a fait vachement penser à un film que j'avais vu il y a pas très longtemps. C'était le film de Kevin Smith qui s'appelait Red State, justement par rapport à cette scène d'ouverture, qui est assez étrange. Et on s'attache très vite au personnage principal. J'ai pas grand chose à rajouter. Hein, je crois que ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Ça donne envie de lire la suite. Et c'est un titre que je range un peu dans la même catégorie que Nailbiter. Sur justement une petite ville américaine un peu bizarre avec un crime et puis une enquête du coup qui va avoir lieu. Pareil, partie graphique moyenne, mais ça gêne pas au fait qu'on puisse apprécier le titre quand même. C'est pas complètement
ça
va pas
moi, ça m'a accroché. Ouais, ça m'a accroché et j'ai vraiment envie de savoir de connaître la suite, quoi.
Ouais, donc très bon démarrage, hein, pour cette série.
Très bonne surprise, ouais.
Trois gros bails, hein,
ouais.
Finalement.
Bye.
Totalement.
On continue avec toi, Bruno. On passe chez Boom maintenant pour une nouvelle série.
Oui, une série qui s'appelle Cluster, qui est au scénario, on a Ed Brisson. Au dessin, on a Damian Cucciello.
Donc c'est une équipe qui travaillait sur la série Sons of Anarchy, pareil, qui sortait chez Boom. Un titre qui m'a bien plu aussi, c'est une narration très fluide, un univers qui a l'air assez riche, dans lequel on va suivre en fait une jeune fille qui, à la suite d'un accident, alors qu'elle était sous la contrôle de l'alcool, se retrouve du coup accusée d'un homicide involontaire. Et elle est dans un monde où en fait on a le choix. Si on est accusé de meurtre, on est soit condamné à la prison à vie, soit on peut aller dans un pénitencier spécial où en fait on fait que 15 ans de prison, mais par contre on est recruté en tant que militaire pour essayer de se débarrasser des aliens indigènes qui foutent le bordel sur cette planète et qui veulent détruire toute la colonisation humaine. Et ça, il y a un petit côté Starship Trooper que j'ai trouvé assez sympa, justement, dans ce titre. Il se trouve que l'héroïne principale également est une fille de politicien qui malgré le fait que son père aurait pu peut-être la sortir de prison, elle a tenu à faire sa peine parce que voilà, elle s'en veut, elle a envie un peu de se prouver qu'elle peut faire quelque chose de bien. Et ça mêle aussi un petit peu le côté série de prison, puisque c'est une prison mixte, hein, par contre, c'est pas qu'une prison de femmes. C'est-à-dire il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des aliens. Et voilà, et donc ça,
Y a des animaux aussi, ou pas?
y a des créatures avec des têtes bizarres qui sont presque limite des animaux, mais voilà, ça reste. En plus, il y a un petit twist, c'est que justement ils sont intégrés de force dans une sorte de force militaire, mais on leur implante à l'intérieur de leur corps une sorte de bombe à retardement qui ferait fondre carrément leurs organes internes de la façon la plus douloureuse possible si jamais ils s'éloignent pendant plus de 24 heures de leur cellule. Donc à chaque fois ils sont envoyés en mission en vaisseaux spatiaux et après ils reviennent dans les 24 heures. Et il va arriver un drame et donc ils vont se retrouver très embêtés de posséder à l'intérieur de leur corps ce genre de device parce que ils sont dans la merde à la fin du premier numéro. Donc c'est vraiment très plaisant. Graphiquement, j'ai trouvé ça cool. Un univers assez riche. Et vivement la suite. Un très bon titre pour ce numéro 1. Donc un bail.
On continue avec la nouvelle série de Grant Morrison. Et Chris Burnham au dessin, c'est chez Image, ça s'appelle Nameless. Et voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Bruno.
On peut s'arrêter là, Steve, parce que...
Bah, ça va se vendre sur les noms,
Ah bah oui.
clairement, parce que ça va pas se vendre avec l'histoire.
Bah peut-être après 5 numéros, on arrivera à comprendre ce qui se passe, quoi.
Grosso modo, on va essayer de faire le pitch très simple. On va suivre un gars qui n'a pas de nom, qui s'appelle donc Nameless. Enfin, en tout cas, les gens le surnomment comme ça puisqu'il n'a pas de nom. Qui est un chasseur enfin, un voleur de reliques dans un monde bizarre, un espèce de monde inversé. Il va devoir s'emparer d'une clé pour on ne sait trop quel principe. On n'a pas tout compris. Et ce mec va être recruté pour une mission encore plus grave qui a rapport avec des choses qu'il a vues.
Et avec un
Tu vois.
astéroïde qui va s'écraser sur la Terre. Voilà.
Voilà, un astéroïde va s'écraser sur la Terre, en rapport avec ce monde bizarre, et puis une série de meurtres aussi au début.
Ouais. Donc c'est vraiment super chelou. En fait, on a l'impression, il y a un petit côté Inception où j'ai l'impression que le personnage est capable d'aller dans ses rêves et d'agir, mais j'ai pas tout compris.
On sent qu'il peut faire intervenir les choses, qu'il peut faire bouger les choses à sa façon dans son rêve,
Ouais.
mais pas complètement.
Donc hyper hyper abscon, une narration vraiment qui nous met sur la
Éclaté.
touche, ces prises de tête. Et ça a beau être quand même plutôt joli, hein, ce que fait Chris Burnham, plutôt détaillé. Là vraiment, c'est dur de rentrer dedans, quoi. Donc assez déçu au final de ce premier numéro.
Bah oui, c'est vraiment, c'est dur quoi. C'est hyper dur parce qu'on a envie de comprendre. Alors bon bah on ira voir l'épisode 2, hein, en espérant avoir quelques réponses, mais
Il aurait peut-être fallu un épisode comme la série de Jonathan Hickman qu'on a eu la semaine dernière, un épisode de 60 pages pour avoir peut-être un peu plus d'histoire et mieux comprendre ce qui se passe. Mais là, c'est juste quoi.
Mais comprenons-nous bien, hein, c'est pas mauvais, hein, non, c'est non, pas non. nul. C'est juste tellement étrange que c'est difficile d'émettre un avis véritablement positif, j'ai envie de dire check it, quoi. Enfin, c'est du Grant Morrison sur un projet indé. Donc, bah, vous savez un peu à quoi vous attendre. J'ai envie de dire. Voilà, c'est.
C'est ouais, pareil, un check-it avec parfois l'étrange sensation d'avoir l'impression de lire du Batman Incorporated avec les dessins.
Ouais.
Mais mais bizarre.
J'aurais même dit en repartant un peu de ta phrase, j'aurais dit avec l'étrange sensation d'arriver à comprendre quelque chose à un moment, puis la page d'après on se dit ah bah non.
Ah bah non, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait.
C'est les montagnes russes de la compréhension.
Moi, j'avais pratiquement envie de dire Batman Incorporated sans Batman, et puis finalement, je me suis dit, bah non, bah il était déjà pas dans Batman Incorporated, donc c'était effectivement Batman Incorporated.
Oh, trash. On va passer à toi, Benny. Justement, tu vas nous parler d'une autre série Image. White Cheese, m'en fous, je le prononce comme ça.
White Cheese, et puis c'est tellement mieux de le prononcer comme ça, de toute façon. Épisode de Scott Snyder et avec des dessins de Jock.
Et épisode 4 surtout.
Épisode 4. Et rappelez-vous, Sailor, hein, cette jeune fille, l'héroïne de ce titre, était prisonnière dans ce monde des sorcières. En fait, elle est prisonnière dans un tronc d'arbre, dans lequel il y a des. Visiblement, les vêtements de plusieurs des victimes qui l'ont précédé. Pendant ce temps-là, son père la recherche un peu partout, et il va recroiser cette espèce de ce qu'on pouvait penser être une sorcière. Il va recroiser cette personne dans une cabane et la confronter. Enfin, la confrontation d'ailleurs va être assez particulière, assez musclée, et voilà, ça. Enfin, je vais pas vous révéler ce qui va lui arriver à ce père, mais en tout cas, ça va le marquer, cette confrontation et cette révélation qu'on va lui faire. Et il revient chez lui, il n'a pas retrouvé sa fille, mais il va encore se passer un twist. Donc vraiment, très bon épisode, parce que autant sur le dernier, c'était un peu mou, Autant là, on s'ennuie pas. Ça repart de plus belle avec vraiment des intrigues captivantes. Et j'ai hâte de voir la suite, surtout avec cette fin là, totalement surprenante.
Bah oui, c'est l'or voit la lune.
En fait, c'est même pas une fin d'ailleurs avec Sailor. C'est vraiment la dernière page. La dernière page la concerne, j'ai envie de dire, mais elle n'est pas là. Voilà, mais
personne n'a compris la blague à part.
Mais si, c'est leur mot.
Si, oui.
Ah,
bah, oui.
Putain, ça va. Comme je vous ai même pas entendu me dire que c'était vraiment pourri.
Bah oui, si, c'était vraiment pourri, oui. On l'a pensé très fort.
Ouais. Non, je pensais que vous alliez me jeter des trucs, quoi. Même pas.
Franchement, bonne lecture cette semaine pour moi, que c'est le quatrième épisode de Witches. Et même graphiquement, autant la dernière fois, je trouvais que ça se lâchait un peu trop, avec des taches partout, des points partout. Là, ça m'a moins dérangé. J'ai trouvé que c'était, c'était un petit peu mieux. Bon titre que peut-être il sera mieux d'apprécier en TPB, parce qu'il y a toujours un côté très très film en fait, et du coup là c'est un petit peu comme si on avait 20 minutes par 20 minutes à chaque fois, et donc du coup c'est un petit peu difficile parfois de se remettre dedans. Voilà, c'est juste le seul reproche qu'on pourrait faire à ce titre.
On continue avec une série Dark Horse, enfin une mini-série Dark Horse, deuxième épisode sur 5 de la série Lady Killer, par Joel Jones, qui est scénariste ainsi que dessinatrice. Au scénario, elle est accompagnée de Jamie S. Rich, et la colorisation est de Laura Allred. J'avais beaucoup aimé le premier épisode pour cette ambiance, hein. Je rappelle le pitch, une mère de famille dans les années 60, donc une société où la place de la femme reste encore traditionnellement à la maison, est en fait une tueuse à gages travaillant pour une organisation assez mystérieuse. Et à la fin du premier épisode, sa prochaine cible était au sein d'un club de striptease.
Ah non, d'accord.
Au sein d'un club de striptease, un club de charme de l'époque, quoi, où les serveuses sont habillées en toute petite tenue, etc. C'est difficile de raconter la série et à le faire un contrat et puis elle va partir sur autre chose. Son boss la harcèle avec le principe que elle veut vraiment séparer sa famille et son boulot. Et du coup, quand elle a des trucs avec sa famille, le boulot c'est non quoi. C'était la condition qu'elle avait mise. Apparemment, on apprend que ça fait 15 ans déjà qu'elle fait ce travail-là et qu'elle travaille pour cette organisation. Et son boss en a marre de ça et lui impose un contrat qui risque de la gêner dans sa vie de famille. Donc même son boss, qui emploie des femmes et donc est un petit peu, on va dire, en avance sur la société actuelle, continue d'être dans le même moule que cette société-là.
Oh, attention.
Oui, il y a quand même ce paradoxe-là qui est assez intéressant. La série est surtout magnifique par son graphisme. Les pages sont superbes, les scènes d'action sont vraiment bien rendues. Moi, je me régale vraiment avec cette série. C'est pas la série du siècle, c'est pas novateur, c'est juste bien fait. Et voilà. Et c'est tout ce qui compte en fait. C'est juste bien fait, c'est intéressant. Et comme chaque mois, j'ai envie d'aller suivre cette série où on la voit en prise avec sa famille, essayer de cacher un petit peu cette seconde vie qu'elle a, la voir agir avec les voisines, la belle-mère qui habite à la maison et qui ne l'aime pas et qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal chez sa bru. Je trouve pas sa belle-fille, voilà. Je cherchais le terme habituel. Et puis en même temps, elle qui est très douée dans son job, mais à qui son patron pose des problèmes. Et on nous promet surtout une suite encore pire. Donc voilà, vraiment bonne série. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un bail. C'est une bonne série qui se laisse vraiment apprécier et surtout vraiment un graphisme somptueux. On termine avec toi, Benny. Tu vas nous parler d'une série Vertigo. Il s'agit de Wolf Moon. J'ai eu un doute. Je confondais avec Intersect qui est chez Image.
Ouais. Wolf Moon par Cullen Bunn et Jeremy Owen. Donc tu avais déjà parlé des deux premiers, je crois. Oui. C'est le troisième numéro sur 6, hein, rappelons-le. Et donc c'est cette histoire de loup-garou après les sorcières. Je me suis dit que j'allais me faire un petit peu de loup-garou cette semaine. Et ça se résume assez vite. Hein. En gros, un loup-garou là en vadrouille, je sais pas comment le dire autrement. Donc on assiste un petit peu à sa métamorphose. Et puis il y a deux chasseurs de loups-garous qui sont à ses trousses. Et on va dire que l'un des deux a une manière beaucoup plus expéditive de chasser le loup-garou que l'autre. Et là c'est vraiment on est dans l'action quoi dans cet épisode. Ça se termine d'ailleurs sur un cliff assez costaud avec le héros qui est coincé entre le loup-garou d'un côté et puis un flic de l'autre. Bon, on se doute bien que de toute façon il va se passer quelque chose, il va s'en sortir, mais voilà, c'est efficace, ça fait le job. Que dire de cet épisode? C'est vraiment un épisode là très 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 action. Honnêtement, on en apprend pas beaucoup plus sur la mythologie autour des loups-garous. Il y a toujours le côté dans cette série les infectés se voient au fait leur enfin voient les gens complètement massacrés. Il y a toujours un aspect très très graphique. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, ça me rappelle quand même pas mal cet autre titre dont j'avais parlé la dernière fois. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est sorti en français chez Avatar.
Ferrols.
Ferrols, voilà, exactement. Qui était aussi plutôt réussi sur ce thème des loups-garous. C'est un peu plus soft que Feral, parce que peut-être que les dessins sont un peu plus cartoony, un peu moins hardcore du coup.
Ah, puis chez Avatar, c'est quand même une spécialité de faire dans le graphique. Hein,
ouais. Il y a un peu moins de sexe aussi, quand même.
Et puis c'était du David Lafam, Feral, ça.
Ouais, en plus. Donc ça avait tout pour être bien crade. C'est quand même très intéressant. Il y a un bon suspense. C'est franchement si on aime bien les loups-garous et les histoires un peu horrifiques et puis les thrillers hein, parce que c'est quand même un bon petit thriller, on on accrochera à ce titre. Cullen Bunn est quand même en forme sur les... Bah, au fait, j'ai l'impression qu'il est super en forme quand il s'agit d'écrire des personnages un peu pourris, quoi. Il aime bien écrire des super vilains. Et donc des monstres comme un loup-garou, bah, c'est parfait pour lui.
Donc, finalement, ta note?
Bah, bonne petite série, voilà. J'espère même qu'il y aura plusieurs mini autour de ce Wolf Moon.
À voir comment ça finira. Ouais. Parce que le concept de ce loup-garou-là dans cette version, si la fin de la série est ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire la mort de ce loup-là, je vais éviter de trop révéler pour ceux qui n'auraient pas encore démarré la série. Je vois pas le concept s'éterniser.
Ouais, enfin bon, on peut imaginer hein, qu'il y ait d'autres, y en ait d'autres ailleurs, je ne sais pas.
Ouais, mais c'est un bon renouvellement du concept en tout cas. La mythologie est bien secouée et c'est pas si dérangeant que ça.
Non. Mais voilà, donc bah, un bon bail pour ce titre.
Les TP dans la partie indé de cette semaine, c'est du Boom avec, au prix de $40, le Fall of Cthulhu Omnibus. C'est écrit par Michael Alan Nelson, hein, qui écrit actuellement la série Hexed chez Boom, mais qui a aussi écrit 28 Days Later, Daymen, notamment Daymen qui sort quand elle sort, malheureusement. Donc toute la série Fall of Cthulhu est reprise dans ce unique et seul tome. Hein. Si vous êtes fan, comme cerveau, de tout ce qui a trait avec l'univers de Lovecraft. Voilà, c'est la petite dédicace à cerveau. On continue avec le deuxième tome de ElfQuest, Complete ElfQuest, volume 2, en TP. Ça reprend les épisodes 1 à 8 de la série Siege at Blue et 1 à 9 de la série Kings of the Broken Wheel, hein, qui étaient donc deux séries... deux maxi même on devrait dire, dans cet univers d'ElfQuest. Ça fait 552 pages et c'est au prix de $25. C'est du noir et blanc, bien sûr, puisque ElfQuest à l'origine était en noir et blanc. Chez Dark Horse toujours, le volume 16 de Conan, qui reprend, alors ça sort effectivement en français, c'est même déjà sorti, mais si vous les préférez dans la langue de Shakespeare, les épisodes 19 à 25 de la série de Brian Wood de Conan, c'est-à-dire la fin du run de Brian Wood sur Conan. Ça vaut $20. Chez Fantagraphics maintenant, pour les amateurs de vieux comics, Prince Valiant, le 10e volume hardcovers, les années 55 et 56 de ce vieux personnage, totalement oublié d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Prince Valiant, ah oui. À ma connaissance,
bah
pas grand-chose.
Hein. Il va revenir chez King, je crois.
Oui, qui a repris de Phantom aussi, ouais. Actuellement. Ouais. Bon, c'est au prix de $35, c'est du Al Foster, évidemment. Chez IDW, l'adaptation du script original de City on the Edge of Forever, cet épisode culte de Star Trek, l'adaptation originale du roman de base de Harlan Ellison est sortie en complet, en hardcover, ça vaut $25. Et enfin, chez Image, cette série dont on parle beaucoup, God Hates Astronauts.
Oui.
Oui, de Ryan Brown,
très sympa.
Qui a énormément un succès critique. Ça sort donc, c'est le deuxième TV, puisque c'est la deuxième mini. C'est 5 épisodes et c'est au prix de $15.
Super délire.
Tu aimes beaucoup, toi. Ouais. Voilà, c'est tout pour les TP de la semaine. On va terminer notre émission avec la partie d'essai et bah, pas de Batman cette semaine. On n'a pas lu de Batman. Waouh, ça change. Mais par contre, on a lu Superman. En même temps, on était un peu obligés. Grosse semaine de Superman, puisque Benny, tu vas nous parler du Superman 38, celui qui change tout.
Ouais, ou pas, on verra. Superman 38 par John Romita Jr., on va commencer par les dessins, je sais pas pourquoi, et Geoff Johns au scénario, avec l'ancrage de Klaus Johnson, qui ancre donc le scénario, bien sûr. Hein.
Bah oui, parce que Geoff Johns a tout écrit au crayon de papier.
Mais en quelque sorte, et donc oui, alors on a quand même la couverture aussi la plus pourrie de elle est moche, hein, la couverture quand même. Cette espèce de Superman qui fait un je te tiens par la barbichette avec Ulysse, et qui a vraiment une sale tête, Superman là, qui fait un vieux. Enfin bref, je sais pas. C'est voilà la couverture est quand même très moche, je trouve. Avec ah oui, et puis Geoff Johns il nous a ressorti ce qu'il faisait dans les années 90
avec les têtes
sur les vieux comics avec les têtes qui regardent qui font oh.
Bah est-ce que c'est Geoff Johns ou est-ce que c'est Romita Junior qui nous a fait
non,
ça?
Non, c'est genre non, oui, bah j'inverse les deux, je ne sais pas pourquoi. John Romita Jr. bien sûr, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais heureusement, l'intérieur est quand même de meilleure facture.
On a vu ça sur des épisodes de Spider-Man, de, de plein de Thor, de plein de choses. Hein. Ouais.
Bah, le relaunch de Spider-Man par John Byrne, voilà, qui avait aussi ses têtes sur la couverture.
Mention spéciale à la tête de Batman en haut, quoi. Ça, c'est tellement improbable.
Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que, est-ce qu'on avait eu jusque-là Batman dessiné par John Romita Jr., je suis même pas certain.
Peut-être que c'est peut-être dans un black and white et encore je suis même pas sûr.
Eh, peut-être que c'était la première fois que John Romita Jr. dessinait en tout cas autant Batman que dans ce numéro, puisqu'on voit
qui apparaît hein, dans ce numéro.
Ouais. Donc
au moins c'est pas mensonger, c'est pas la tête de Batman juste pour faire vendre. Eh, finalement on parle de Batman encore cette semaine et merde.
Voilà, voilà, c'est fini. Donc on est en plein dans ce combat entre Ulysses et puis Superman, parce que rappelez-vous, on va dire à la française, ça me saoule Ulysses, Ulysses avait transporté eh bien des milliers et des milliers de terriens dans son monde. Il leur avait promis bah au fait un monde sans maladie, sans douleur, quoi, un monde parfait. Et au fait les choses n'étaient pas celles qu'il promettait, hein, loin de là. Donc Superman était intervenu, avait envoyé tout le monde sur Terre, et puis bah, surtout le monde d'Ulysse avait complètement pété, complètement disparu. Donc Ulysse est fou furieux, il affronte Superman, il y a un combat dantesque qui s'engage entre les deux, combat auquel on va assister dans de nombreuses pages de ce numéro. Très bon combat, hein, je trouvais que c'était quand même très sympathique. Et bah, au fait, dans une seconde partie du numéro, on va assister à l'après-combat. Donc je vous dis pas si Ulysse s'en sort, comment Superman va s'en sortir, ni quelles vont être les conséquences, car il va y avoir des conséquences sur lui. Voilà. Et en tout cas, Batman va lui expliquer un petit peu, puisque c'est Batman qui récupère Superman, qui est complètement dans les vapes, qui va un petit peu lui expliquer bah, son nouveau statu quo, en gros. Hein. Écoute, il va lui dire, écoute, là, t'as été rebooté, mon pauvre ami. Donc voilà.
T'as été rétro-continué, moi, je dirais.
Ouais, t'as été rétro-continué. Et puis, il va se passer un petit twist aussi dans les dernières pages. Superman va prendre une décision. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et il y a cette dernière page, cette toute dernière page. J'ai pas trop capté au fait ce que tenait ce vilain dans l'ombre qu'on voit depuis le début hein, du run de Geoff Johns et John Romita Jr. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette espèce de paquet qu'il tient bon, on verra. Voilà. Bah écoute, écoutez, bah je vais vous laisser la parole.
Bah il y a que moi parce que enfin.
Ah oui.
Bruno, tu vas peut-être pouvoir t'exprimer même si tu l'as pas lu,
oui,
tu l'as quand même feuilleté de façon bien appuyée. Déjà, c'était annoncé un gros changement pour Superman, nouveau costume. Honnêtement, moi j'ai cherché les différences, j'en ai pas vu beaucoup. Ce nouveau costume dessiné par John Romita,
c'est léger, c'est très léger, les modifs.
Non, franchement, ouais.
Au niveau de la ceinture, la boucle de la ceinture qui est différente.
Ouais, je crois que les bottes sont un peu plus
courtes
aussi.
Au niveau des
et
gants
un peu
aussi.
Plus spandex.
Au niveau des mains, il y a des petits changements.
Ouais, enfin franchement, c'est pas la grosse révolution. On nous promettait un gros costume et tout. Bon, voilà. On nous promettait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Bah oui, forcément, quand on ajoute un nouveau super pouvoir à Superman, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça, c'est certain. Je parais très critique comme ça, mais voilà. Au moins, là, c'est vrai. Il nous a fait quelque chose qu'il nous avait jamais fait. Maintenant, ce nouveau super pouvoir, moi, je trouve que c'est un peu de la merde. Je vais être honnête.
Non, comment ça, ce nouveau super pouvoir
Benny n'a rien compris, je crois, à l'épisode.
Non, ce qui arrive à Superman, c'est quand même un truc qu'on a déjà vu.
Non, c'est un nouveau super pouvoir. C'est un nouveau super. Donc Benny n'avait pas compris le comic. C'est un nouveau super pouvoir. Eh oui. Oula,
ouais,
ça laisse un
blanc. Mais en quoi ça change? En quoi ça change le perso? Ça change rien, quoi.
Bah non, il nous avait dit quelque chose qui changeait le perso. Bah, les conséquences de ce...
Oui, les conséquences changent le perso, ouais, mais ces conséquences ne sont pas nouvelles. Voilà, c'est ça que je veux dire.
C'est une façon d'amener un peu de vulnérabilité au personnage de Superman.
Mais c'est pas nouveau, ça.
J'ai trouvé ça assez moyen, également, aussi, d'idée, mais...
Bon, on rappelle hein, quand même qu'à l'époque du costume électrique, sous forme humaine, il était vulnérable, hein. Reste la décision que prend Superman à la fin. qui, ouais. Alors, je l'annonçais hier dans le Weekly News, enfin, hier au moment où on enregistre évidemment, que c'était totalement inédit. Et Benny, tu m'as fait remarquer qu'en fait, non, ça avait déjà été fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Moins d'une dizaine d'années, on va rester cryptique, hein, pour ceux qui, pour vraiment.
Ouais, ouais.
Voilà. Ouais. Donc, mea culpa, je n'avais pas lu cette série en entier. En même temps, c'est pas étonnant du tout.
Ouais, ouais, c'était pas un truc extraordinaire, et de toute façon, bah, comme beaucoup de choses, ça a été un petit peu oublié, voire être conné, mais en tout cas, ça a déjà été fait, ouais, par le passé.
Cette décision, Bruno?
Bah, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner par la suite, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment un cliff pour surprendre, mais je suis pas sûr que ça change énormément de choses sur le statu quo du personnage, quoi.
Assez dubitatif, hein, quand même. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Assez dubitatif. Moi, honnêtement, ce nouveau pouvoir, je vois pas comment il peut l'utiliser de façon régulière, quoi. C'est pas possible.
Bah non, mais au fait, c'est surtout ce que disait Bruno. C'est ce qui en découle qui est intéressant, parce que ce super pouvoir, à mon avis, il va pas l'utiliser souvent.
Ouais, enfin, en même temps, j'ai envie de dire 24 heures, quoi. C'est que dalle.
Oui, oui, c'est que dalle, mais bon, il suffit que ça tombe durant les mauvaises 24 heures.
Ouais, oui. Faut voir comment ça va être utilisé. C'est surtout ça, quoi.
À voir. Moi, c'est le côté destructeur du pouvoir qui me dérange. Trop destructeur pourrait pouvoir être utilisé de façon trop récurrente.
Bah, c'est Dragon Ball, hein.
Ah oui, bah oui, c'est véritablement du Dragon Ball. Ça, y a pas d'autre mot, quoi. Jeff Jones a dû découvrir des épisodes de Dragon Ball, il s'est dit, hey, super cool. Si je faisais ça, moi aussi. Je suis un peu putain, mais bon. À voir ce que ça a donné sur la suite. Moi, j'ai hâte quand même de lire les épisodes uniquement scénarisés par Romita. J'ai envie de voir ce qu'il va faire au scénario.
Ça débarque quand? C'est prochainement?
Je sais plus. Je sais plus quand c'est, malheureusement. Je me demande si c'est pas avant Convergence.
D'accord.
Je sais plus exactement. Bref, cet épisode, un bail, passe un bon moment. Ouais, un petit bail, allez, un petit bail pour être gentil.
Bah, c'est la conclusion de l'arc, en plus, donc voilà, si vous avez commencé à lire le run de Jeff Jones et Romita, faut y aller, quoi.
Moi, je pondère un peu parce que il est quand même un peu cher, même s'il fait un peu plus de pages, il est quand même un peu cher.
C'est vrai qu'il est à 5 dollars, hein. Ouais, effectivement.
5, pardon, oui. Ouais. Benny?
Un petit bail, c'est... On nous avait promis un truc extraordinaire, et puis, bon, je reste un peu sur ma faim. Je trouve pas ça... Au fait, c'est à chaque fois, Jeff Jones nous dit, ouais, je vais révolutionner, je vais faire un truc qui n'a jamais été fait. Pour le moment, non. Non, je suis désolé. Y a rien de vraiment nouveau là-dedans.
Bah si, le nouveau super-pouvoir.
Oui, mais enfin, ça sert à rien, ce nouveau super-pouvoir.
Ah bah oui, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été fait.
Ouais, mais enfin, je veux dire, s'il faisait des frites en claquant des doigts, ce serait aussi un nouveau super-pouvoir, et bon, ce serait tout autant intéressant, quoi.
Techniquement, ça n'a jamais été fait non plus. Donc voilà, il ferait ça, bah il aurait rempli son contrat et ça,
ouais,
il aurait
mais
tenu
en
sa
fait,
promesse.
En fait, on s'en fout. Enfin, c'est surtout les conséquences, encore une fois, que ça a. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il va essayer de faire des histoires, quoi.
Pour moi, les conséquences, elles sont doubles. Autant les conséquences sur Superman, mais les conséquences sur. Enfin, moi, j'ai envie de dire Civil War, quoi. Putain de merde.
Civil War.
Oui. Rappelle-toi ce qui a déclenché la Civil War. C'est la même chose.
Ah, oh oui, mais alors là, tu vas voir loin, hein, parce que si ça tombe, ça n'a aucun rapport.
Non, mais je veux dire, en termes de destruction, c'est ça le ouais. problème. C'est ouais. ça le problème, c'est que raser 5 blocs, je veux bien, mais ouais. il y a forcément des dégâts, il y a forcément des conséquences.
Ouais. Oui, bien sûr, oui, peut-être que ça va être étudié, ça. Et,
C'est pour ça que c'est inutilisable
dans
c'est tous
pour
les
ça
épisodes,
qu'il,
quoi.
Oui, il le fera pas souvent.
Hein. Bah, faut qu'il fasse comme dans Dragon Ball, qu'ils aillent se téléporter dans une zone où il n'y a pas de monde.
Ah. Ouais, Namek, c'est pas mal pour ça. Puisqu'on sait très bien que dans le monde de Dragon Ball, il y a du Namek un peu partout sur la Terre, sauf dans 3 villes. Allez, on passe à la dernière sortie de la semaine. Grosse sortie. Sortie pour le moment que en papier, pas en digital. Il s'agit de Superman Earth One Volume 3. Toujours scénarisé par J. Michael Straczynski avec des dessins d'Ardayan Sayaf, qui remplace Shane Davis. Shane Davis étant sur d'autres projets, notamment chez Legendary, je crois.
Ouais.
Et c'est ancré par Sandra Hope, avec une colorisation de Barbara Ciardo. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire cet, ép- ce volume au complet, c'est quand même assez gros. Je ne l'ai reçu que ce matin. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de pouvoir donner un avis complet. Donc, je vais que pondérer mon avis sur ce que j'ai lu, à savoir environ 90 pages pour le moment, sur 150, à peu près, hein, à la louche, 140, on va dire.
On va dire que t'as lu la moitié de l'arc, quoi. T'as lu 3 numéros sur 6, puisqu'en gros, ça fait 6 numéros.
Ouais, non, j'ai lu les 3 quarts, je dirais, quasiment les 3 quarts. Mm-hmm. L'épisode, enfin le volume est bien. Bon, déjà j'aime bien Superman Earth One. Je sais que c'est pas forcément ton cas, Bonnie. Tu n'accroches pas forcément au concept.
Bah moi c'est toute la gamme Earth One dont je me fous éperdument en fait. C'est voilà. Bon le seul que j'avais bien apprécié quand même, c'était le Superman Earth One numéro 2. Donc à la rigueur, mm-hmm. Peut-être que ce numéro 3 est dans sans s'en approche.
Bah, en tout cas là, ce numéro 3, l'antagoniste c'est quand même assez simple hein, puisque.
C'est Lex Luthor.
Et non. Alors je sais pas si tu te rappelles, ce Lex Luthor travaille avec sa femme.
Ouais.
C'est un scientifique et il n'est pas forcément contre Superman. Et ça, c'est le twist super intéressant, je trouve. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu.
C'est plus la femme, peut-être, contre
oui,
Superman.
Voilà. Et puis, Lex Luthor, on le rangerait plus du côté des gentils. Encore une fois, je n'ai pas été lire jusqu'au bout, donc peut-être qu'il y a une évolution vers la fin de l'épisode, ne m'en voulez pas, malheureusement, par manque de temps, j'ai pas pu finir la lecture, mais je voulais vraiment en parler cette semaine, parce que c'est la sortie, la grosse sortie de la semaine chez DC. Et donc cet épisode, c'est Zod. Voilà, la version Straczynski, la version Earth One de Zod, ce n'est pas révolutionnaire, ça ouais. Fait juste super bien le job.
D'accord. Je suis un peu déçu,
on a un Zod vraiment machiavélique et surtout qui a des racines avec le premier tome. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus malin.
Ouais, mais justement, le premier tome m'avait saoulé. Là, tu vois, je suis vraiment déçu, quoi. Je me dis,
non,
ah,
mais
non.
Cet ennemi que tu voyais dans le premier tome a des liens avec Zod. Ouais, et ça, ouais. C'est intéressant. Finalement, cet ennemi qui avait été créé de toutes pièces pour le Superman Earth One ouais. Volume 1 et qu'on se demandait quel était un peu l'intérêt, ben voilà, il y a des liens. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de la part de Straczynski de relier tout ça ensemble. Il y a des choses intéressantes, tout comme le secret de Clark Kent qui va être appris par une personne dans cet épisode. Ça c'est assez intéressant, surtout la façon dont c'est fait en fait, c'est plutôt pas mal. Non vraiment, moi j'aime beaucoup, les dessins d'Ardian Sayaf sont très très bons, il y a pas de problème. Alors oui, c'est pas Shane Davis, mais moi franchement ça me dérange pas du tout, c'est vraiment très propre. J'aime beaucoup le Lex Luthor de Straczynski, honnêtement, cette version de Lex Luthor est vraiment superbe. Je trouve, voilà, c'est un gros changement sur le mythe, mais c'est le but de la Gamers One, réinventer l'ensemble, quoi. Le Zod est machiavélique à souhait, ultra puissant, on a des scènes de baston monumentales. Non, ça se lit vraiment super bien. Ça se lit vraiment super bien. Moi, j'aime beaucoup et je vous encourage tous à, en tout cas, tous ceux qui aiment cette gamme Earth One et qui avaient aimé les précédents volumes, de vous le procurer, c'est tout aussi bon. J'attends avec impatience de pouvoir lire la fin puisque si c'est comme les deux premiers volumes, toute la partie de fin sera, on va dire, plus de la vie réelle et des conséquences, quoi, qui entraînent sur le volume 4. Puisque avec Straczynski, à chaque fois, on avait eu la fin, non pas la dernière page, la fin du combat, en tout cas la fin du gros problème pour Superman, non pas la dernière page, mais peut-être une quinzaine de pages avant la fin. Et les 15 dernières pages étaient plus pour gérer les conséquences. Donc vraiment, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est la Gamers One, donc ce n'est pas vraiment canon. Pas du tout, même. Quoique avec Grant Morrison, on sait plus trop. Et puis, c'est quand même un petit peu cher. Voilà, oui. Ça reste un prix, puisque c'est le hardcover pour le moment, la version hardcover, ça vaut 22,99. J'ai pas vu de date pour le moment prévue pour la version française. Peut-être as-tu ça dans tes cartons, Bruno?
Non, pour l'instant, il n'a pas encore été annoncé.
Donc voilà, moi, gros bail hein, cette semaine. Malheureusement, je n'ai pas encore lu la fin, donc je pondère mon avis. Peut-être qu'un retournement de situation rendra l'épisode pourri, mais en tout cas, sur, on va dire, les 90 premières pages, c'est du tout bon. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ah non, pardon, il manque les TP de DC, excusez-moi, les TP de DC. Ça c'est la blague. Le Invincibles Hardcover Book 3, en version de luxe, est sorti cette semaine, au prix de $30, qui contient le deuxième volume d'Invincibles, les épisodes 1 à 13. Voilà. Peut-être un jour ferons-nous notre spécial dessus. Hein. Ça fait 5 ans qu'on en parle. donc le Superman Earth One, hein, je vous l'annonçais que je classe dans la partie dans la partie TP. Et puis enfin, le Teen Titans volume 5, qui reprend les derniers épisodes de la précédente série Teen Titans, celle écrite par Scott Lobdell, avec Angel Unzueta au dessin notamment, les épisodes 24 à 30 ainsi que le deuxième annual, c'est au prix de $18. Voilà, c'est tout pour les TPDC. Ils étaient sages en TP hein, cette semaine,
ouais,
tous, tous confondus. Ouais. Après la grosse semaine de la semaine dernière, l'avalanche de TP, semaine un peu plus calme, c'est pas plus mal. Ben voilà, on a fini.
Eh oui, pas c'est mal beau. De lectures.
Ouais, pas mal de bons. Hein,
pas mal de pas bonnes de... choses, ouais.
Pas de passe.
Donc, une c'est bonne bien. Semaine.
Pourtant, Dieu sait si t'aimes les passes.
Oui. Oui, oui, ça y est. J'essayais de rebondir avec un truc sur le basket ou le foot ou n'importe quoi. Et ça m'a heurté ensuite que tu parlais pas du tout de sport.
Oui.
Enfin, pas celui-ci.
C'est étonnant d'ailleurs, hein, parce que pourtant, moi, quand on me voit, on me dit, putain, lui, il transpire le sport, quoi.
Pardon. Ça venait du fond du cœur, ce rire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine dose de review. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur le site comiccity.fr où vous retrouvez tous les anciens épisodes, ainsi que sur iTunes, mais aussi tous les articles. Vous avez aussi la page Facebook, n'hésitez pas à aller mettre un petit like, et puis le Twitter, @comiccity, qui vous permet notamment de réagir aux émissions, aux articles, etc., mais aussi aux émissions que l'on fait en direct sur l'antenne de Synops Live. Je rappelle, tous les mercredis soirs pour le Weekly News à 21h. Et ça, c'est beau.
Et ouais, carrément.
Comme des foufous. Voilà. Et puis les mails aussi, j'allais oublier les mails. L'adresse, c'est podcast@comiccity.fr. Les mails que vous enverrez, nous les lirons et répondrons aux questions éventuelles dans le Weekly News. On a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout plein de lectures. Un bon petit Superman Earth One à se lire ce week-end, ça fait plaisir.
Ouais, je pense que je vais craquer pour le Earth One. Ouais. Ça m'a donné
oui, crack,
envie.
Crack. Allez. Straznicki a besoin de sous crack.
Ça marche. Allez, ciao, ciao.
À bientôt.
Ciao. Meaning right now, better be out of Cooper, can't you?